Cette visite vous propose une balade dans les rues de Villanova afin de découvrir les histoires qui se sont tissées dans le village depuis le Xe siècle, date à laquelle le comte Santo fonda le monastère San Salvador. La voix qui guidera vos pas sera celle de l'intellectuel membre du mouvement galléguiste Francisco Fernández del Riego. Puisant dans ses souvenirs d'enfance, il évoquera des histoires, des personnages et des lieux d'un temps aujourd'hui révolu. Pour profiter pleinement de la visite, veuillez suivre ses indications. Après avoir lancé la lecture, il est important de ne pas l'interrompre jusqu'à la fin. Respectez l'itinéraire décrit, afin de ne pas perdre le fil de la narration. Faites seulement les arrêts indiqués expressément dans l'enregistrement et, surtout, marchez à pas lents et à un rythme constant.
Je m'appelle Francisco Fernández del Riego. Je suis né ici, dans ce petit village situé au bord de la mer Cantabrique qui baigne la province de Lugo en 1913. Et il semblerait que quelqu'un ait jugé opportun que je vous serve aujourd'hui de guide dans cette promenade dans les rues de Villanova. Pourquoi moi? Eh bien, on m'aurait choisi pour mes supposés mérites. Étudiant au séminaire des études galiciennes, fondateur de la maison d'édition Galaxia, directeur de la revue Grial, membre de l'Académie royale galicienne et également président de celle-ci, médaille Castelao, Pedron d'Ouro. Cet ensemble de réussites et récompenses que j'ai eu l'honneur de recevoir tout au long de ma carrière m'ont été décernées, je pense, davantage pour mes années de travail que pour les aptitudes supposées que d'autres m'attribuent. En tout cas, tous ceux qui me connaissent savent bien que je me suis attaché à travailler toute ma vie pour la culture galicienne et non pas pour être sous les feux de la rampe. Ceci dit, je suis ravi d'être votre hôte aujourd'hui et de vous accompagner dans cette visite pour vous faire découvrir le village qui m'a vu naître. Avant de commencer à marcher, je vous invite, mesdames et messieurs qui m'accompagnent aujourd'hui, à contempler cette place qui nous sert de point de départ. Elle faisait partie du monastère de San Salvador. On peut apercevoir, si on regarde aux alentours, la partie arrière de l'abbaye, de l'église et du monastère. La place porte le nom de César Chavarría Pacio, un prêtre qui a œuvré pour la récupération du patrimoine historique et artistique du monastère. D'ailleurs, je vous invite vivement à le visiter. On y va. Comme je vais être votre guide, je prends la liberté de vous emmener dans les paysages qui ont marqué mon enfance et mon adolescence à Villanova. En d'autres termes, nous allons nous transporter à la première moitié du XXe siècle. Évidemment, il y a des choses qui ont beaucoup changé dans le village, d'autres pas tellement, et certaines pas du tout. Nous allons nous diriger vers le trottoir de cette rue très fréquentée qui est la Travesía Marina, jusqu'à cet arbre, là-bas, à côté de la boîte à lettres. Une fois arrivé, je vous invite à faire un exercice très simple. Faites une petite halte pour regarder attentivement la rue. Balayez-la du regard, de droite à gauche. C'est l'une des choses qui a le plus changé à Villanova. Quand j'étais enfant, cette rue n'existait pas. Elle n'a été percée que dans les années 40 pour soulager les voies existantes et améliorer la fluidité de la circulation en ces temps où les véhicules commençaient à être de plus en plus pressants. Maintenant, continuons à avancer sur ce même trottoir. Nous longeons le mur du monastère à notre gauche. La première maison de cette avenue était celle que l'on voit à droite, de l'autre côté de la chaussée, aux airs modernistes. C'est la Casa de Soza, de Sebastián Soza de Ron, député, membre du conseil municipal et maire au cours de la Deuxième République en 1936. Je me souviens encore des travaux de construction de cette demeure. Une fois les travaux achevés, le rez-de-chaussée a été occupé par le tabac de Branca Soza, le café de Canelo et un atelier de bicyclette. Reprenons à présent la promenade, parce qu'on devrait arriver au coin de la rue qui donne accès à la place Conde Santo, même si ici, on l'a toujours appelé El Cantón. On y est? Alors on s'arrête. Avant d'entrer de plein fouet dans la place, j'aimerais que vous portiez votre regard sur les maisons à votre droite, de l'autre côté de la rue. Elles ont été construites dans les premières décennies du XXe siècle. Au numéro 4, il y avait la maison de Joaquín Lozano, qui fut secrétaire de la mairie, juge municipal et leader de l'agrarisme. À l'arrière, il y avait un potager et pendant un temps une salle de bal également. La maison suivante abritait la boutique du caviste Cuadradillo. Ensuite, c'était celle de Marcelino de Paquito. Continuons désormais et entrons dans le canton. Moi, si vous me le permettez, je vais continuer à l'appeler comme ça et non Plaza do Conde Santo. Je ne m'y fais pas. Je n'arrive pas à m'y habituer. Là-bas, au fond, se trouve l'église Santa Maria. Quelle splendide façade, n'est-ce pas? Comme celle qui se trouve à votre gauche. Celle-ci, c'est la façade de l'abbaye du monastère. Excusez-moi, mais il faut faire encore une halte devant elle. Le monastère compte trois parties. La maison de l'abbé ou abbaye, l'église et le monastère avec ses deux cloîtres. Ce premier corps de bâtiment qui se trouve devant vous et qui jadis correspondait à l'abbaye abrite aujourd'hui la mairie. Avant, il y avait l'école. Lorsque j'y étais élève, j'aimais déjà m'arrêter là où nous sommes.
Hay que ver. Cada día descubro cosas nuevas.
Bah, dis donc. Je n'apprends tous les jours entre ces pierres. Je dois faire attention parce que Madame Estrella, je ne sais pas pourquoi, n'aime pas me voir rêvasser par ici. Si je traîne par ici, c'est parce que je suis toujours en avance. Je n'arrive jamais en retard à l'école. Et maintenant que je pense au Valenciano et Parrulo, ne m'ont jamais chopé non plus.
Et maintenant que je pense, tampoco Valenciano ni Parrulo.
O Valenciano était le télégraphiste. Son bureau était à l'intérieur. Et Parrulo était le sacristain qui vivait également avec sa famille. O Preferente, en plus de jardinier, était policier municipal. Quelle époque! Mais approchons-nous de l'église et situons-nous en face. Je vous parlais il y a un instant de la façade et de sa beauté. Nous autres, natifs du village, aimons à penser que si cette façade n'existait pas, celle de l'Obradoiro de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle serait bien différente, parce qu'elle est signée du même auteur, Fernando de Casas Noboa, et l'on dit que celle-ci a été une espèce de décès avant de bâtir l'autre. Cunqueiro l'a aussi affirmé. Villanova est l'une des Compostelles les plus belles de Galice. Pour en revenir au nom de la place, quelqu'un s'est déjà sûrement demandé qui était le Conde Santo, Comte Saint. Il est incontournable d'évoquer le fondateur du monastère dans cette visite. Pourquoi? Parce que Villanova de Lourenço est le seul endroit de Galice où l'on célèbre des fêtes patronales en l'honneur de quelqu'un qui, malgré son surnom, n'est pas un saint. Vous pouvez le voir représenté tout en haut de la façade, en palmier, c'est-à-dire pèlerin en terre sainte. Je suis sûr que vous serez à même de le trouver. Osorio Gutiérrez, connu sous le nom de Conde Santo, était le fils de Don Gutiérrez et de Doña Aldonza, cousin de San Rosendo, apparenté au roi Astur-Léonais Ramir Ier et Ordoño II. Et s'il n'en fut le fondateur, il fut le grand mécène qui finança la construction de l'édifice. D'après ce qu'on en dit, le comte fit le pèlerinage en Terre Sainte et là-bas, il vit un tombeau en marbre que des artisans étaient en train de tailler. Il l'acheta et il le fit jeter à la mer depuis le port. Il se rendit à Jérusalem et là-bas, il eut la révélation de l'arrivée du tombeau en Galice. L'évêque de Mondoñedo l'a pris et l'envoya chercher, mais personne ne fut à même de le déplacer. Lorsque le Conde Santo rentra, il fut le chercher et le ramena sans la moindre difficulté. À son décès, on y déposa sa dépouille. Au fait, le tombeau est percé d'un trou. On dit que c'est le comte lui-même qui le perça lorsqu'il en fit l'acquisition.
Quand personne ne me voit, je descends à la chapelle. Et sans faire des bruits, je vais jusqu'à l'hôtel où il y a le tombeau. Avant, je descendais de temps en temps. Mais maintenant, j'y vais dès que je peux. Bon, franchement, depuis que les moines m'ont dit que les os du Conde Santo sont dans une casette en bois dans les tombeaux, je descends tous les jours. Il y a un trou dans les tombeaux et j'y fourre mon doigt et je peux toucher la boîte.
Non volvo entrar aí nunca máis, pero para outro día volvo.
Poursuivons. Dirigeons-nous maintenant vers notre droite. Nous traversons la ligne de platanes et empruntons cette promenade que nous appelons ici Alameda. Nous devons continuer à marcher et laisser à notre gauche le kiosque à musique qui a également assez changé. Nous allons diriger nos pas vers la grande maison que l'on voit au fond et qui encadre la place. Nous ferons une halte devant, d'accord? Et puis, chemin faisant, on observera la fontaine qui est devant le kiosque. C'est la fontaine à la grenouille. Comme j'étais déjà grand lors de la construction de la fontaine, pour moi, l'Alamède recèle d'autres souvenirs. En sortant de l'école, nous passions du temps à jouer à la pelote et le large du mur de l'église faisait office de fronton. Par ailleurs, les dimanches, quand on sortait de la messe de midi, il y avait la promenade de la matinée à l'Alameda et dans le canton. Tout le monde se réunissait, se connaissait, l'on parlait de ceci, de l'autre, de cela, et on avait toujours l'impression d'être observé. Et voilà! Cette grande demeure à deux étages qui englobe le flanc de la place est la maison de Hoya. Arrêtons-nous ici un moment. Cet hôtel particulier a été fait construire à la fin du 19e siècle par une famille arrivée de Ponte Nova au siècle précédent et originaire d'Hoya, un village de la côte sud de Pontevedra, d'où son nom. De curieuses têtes masculines ornent l'arc de la porte centrale de la façade et également un autre latéral. Maintenant, reprenons la marche et dirigeons-nous vers la gauche. La maison d'à côté fait partie de la même propriété. Elle abrita le casino et le principal cinéma. C'était sans doute l'une des meilleures salles de cinéma de la province de Lugo. L'espace est encore assez bien conservé tel qu'il était quand il était en activité. Alors que nous continuons à marcher, si vous regardez maintenant en face, à gauche, vous verrez l'édifice qui fut jadis un monastère puis un séminaire et auquel on accédait par cette porte. Le blason qui figure sur le mur est celui du Conde Santo. Deux loups qui courent et un tombeau qui flotte sur l'eau. Observez-le bien car vous le verrez à maintes reprises tout au long de la visite. Nous voici arrivés à l'angle. Arrêtons-nous près de l'un des garde-corps métalliques qu'il y a sur le trottoir. Mieux vaut nous positionner sur le trottoir qui se trouve le plus à gauche. Ça y est? Eh bien, maintenant, regardez à droite. Tout ce long mur qui longe la rue enferme le domaine d'Hoya. Au fond, à l'angle de la propriété, on peut voir des tours à toit conique incrustées dans la muraille, symbole de la puissance de la famille. La maison la plus ancienne de Villanova, qui n'a rien à voir avec le domaine d'Hoya, est cachée derrière la tour, mais mérite bien une visite également, ne serait-ce que pour des raisons quasi archéologiques. Allez la voir ensuite si vous le souhaitez, mais à présent, nous devons continuer la visite. Pour ce faire, nous allons emprunter la rue Muino do Frade, cette longue rue à gauche qui semble nous inviter à avancer. On y va. Faites très attention car la rue est bondée de véhicules. Il est donc recommandé de traverser et de marcher sur le trottoir pour plus de sécurité. Le long mur que l'on voit à gauche est celui du monastère, c'est-à-dire la résidence des moines. Son état actuel est le fruit des aléas de l'histoire liés à la titularité de l'édifice. Au XIIe siècle, le bien appartenait à l'ordre de Saint-Benoît. Au XVe siècle, il a été rattaché à Valladolid. Au XIXe siècle, avec le désamortissement de Mendizábal, l'État céda le temple à l'église pour le culte et l'abbaye à la mairie pour y abriter les services municipaux. En 1910, il fut occupé encore une fois par des moines bénédictins et en 1942, il est passé aux mains de l'évêché de Mondoñedo, qu'il utilisa comme petit séminaire jusqu'en 1970. Aujourd'hui, il est laissé à l'abandon. Moi, au milieu de tous ces changements, j'ai dû étudier à l'école des moines bénédictins de Samos.
Les cloîtres principaux est orné de quatre étoiles du XVIIe siècle. au rez-de-chaussée. Il est coiffé d'arcs en plein centre et des voûtes d'arêtes reposant sur des arcs doubles. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, mais c'est ce que je dois apprendre par cœur. Mais en fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est les petits cloîtres. Je rentre dedans depuis la chapelle où il y a les tombeaux. Parfois, quand je pars en courant après l'avoir touché, au lieu de sortir du monastère, je vais au cloître. Je ne sais pas pourquoi, mais après les frayères que j'ai dans la chapelle, quand je vois les puits comme ça, j'ai encore plus peur.
La foule se pressait au Pozo Santo, puissant, les jours de fête patronale, car selon la tradition, il avait le pouvoir de guérir les malades. Et apparemment, il avait aussi le pouvoir de savoir si une personne avait commis ou non un péché. Comment le savoir? C'est facile. Il suffisait de plonger dans le puits. Si la personne coulait, elle avait péché. Toute une science. Et maintenant, détenons-nous un instant pour contempler la façade arrière du monastère. Seulement, nous devons tourner à gauche. Au bout de l'édifice se trouve le dit Torreón de los Frailes, la tour des moines, qui abrite de nos jours la cafétéria. Et l'esplanade transformée en terrain de jeu était jadis un potager. Sur le reste de la façade, vous pouvez constater les signes de détérioration dont je vous parlais. Toutefois, malgré son état, je crois que la tour qui se dresse au milieu du terrain mérite que l'on s'y attarde. Même si elle est presque en ruine, sa grandeur saute aux yeux. Eh bien, il semblerait que cette tour faisait partie des anciennes cuisines du couvent. Faites le calcul, s'explique le sens de l'expression espagnole « comer como un cura », « manger comme un curé », qui signifie « manger abondamment ». Et l'on ne quitte pas le monde ecclésiastique, parce que maintenant nous allons au moulin des moines. Pour ce faire, il faut continuer tout droit sur ce trottoir en suivant la même direction que nous avions prise jusqu'à atteindre le tournant du fond. Là-bas, nous traverserons à gauche et suivrons de ce côté du trottoir jusqu'au passage ouvert dans ce mur de pierre que l'on aperçoit là-bas, à gauche, à côté des piscines municipales. C'est clair? Eh bien, avant de continuer, je vais vous poser une question. Saviez-vous que les habitants de Vilanova sont surnommés los del pájaro, ceux de l'oiseau? Non? Alors vous ne savez pas non plus pourquoi. Je vais vous raconter tout cela pendant que nous continuons la promenade. Allons-y. Au début du XVIe siècle, les vassaux avaient l'obligation de faire une offrande à l'abbé en signe de soumission. Il s'agissait d'un oiseau qui recevait le nom de Rey Charlo. Après, on le mettait au bout d'un piquet et deux habitants choisis par les maires portaient le piquet sur les épaules et le portaient ainsi jusqu'au palais de l'abbé.
Monsieur l'abbé, nous vous offrons cet oiseau, un rouge-gorge, en signe de vassalité.
Et l'oiseau a-t-il un nom ou est-ce un simple rouge-gorge?
L'oiseau porte le nom de Rey Charlo.
Rey Charlo. Je vous prends, oiseau captif, pour vous rendre votre liberté. Mais je garde deux plumes, alors que je pourrais en garder plus. Donc, lorsque vous sillonnerez le ciel en battant des ailes librement, sachez que c'est grâce à moi que vous volez, et non grâce à quelque chose ou à quelqu'un d'autre.
Cela avait lieu le 1er janvier. Date à laquelle on nominait les titulaires des charges publiques et la population se réunissait dans la mairie. C'est la raison pour laquelle on appelle les habitants de Vilanova ceux de l'oiseau. D'après mes calculs, on devrait voir à gauche la piscine et être sur le point de traverser le passage dans le mur qui s'ouvre face à nous, à droite d'une maison restaurée. Eh bien, avant de continuer, nous ferons une halte un instant. En tournant sur nous-mêmes, nous pourrons voir un mur haut et tronqué dans sa confluence avec la rue. Ce pan de mur est le vestige de l'ancienne muraille qui enfermait le domaine du monastère. Vous vous faites une idée de la dimension de la propriété. Grande, n'est-ce pas? Eh bien, regardons de nouveau devant nous et continuons tout droit. Après le passage dans le mur, nous poursuivrons sur quelques mètres jusqu'au tournant à gauche. Arrêtons-nous là de nouveau, et en face de nous, là où court une rivière, on peut voir ce qui fut jadis le moulin des moines, ainsi appelé parce qu'il appartenait également au monastère. Ensuite, il est passé aux mains des particuliers. Il est également connu sous le nom de Moulin de Palacios. Lorsque j'ai lu pour la première fois des œuvres telles que Las Lenguas de Diamantes, El Cántaro Fresco, Raíz Salvaje ou La Rosa de los Vientos, j'étais loin d'imaginer que l'auteur, une célèbre poétesse uruguayenne qui fut présidente de la Société uruguayenne des écrivains, Grand Prix national de littérature, ami de García Lorca et de Juan Ramón Jiménez, trouvait ses racines près de ce moulin. Je vais vous raconter tout ça pendant que nous continuons à marcher sur cette rue située à notre gauche. Allons-y. Enfant, Vicente Fernández récitait des vers de Rosalía de Castro alors que les roues du moulin tournaient. Quelques années plus tard, il quitta le moulin pour embarquer vers l'Amérique. Jeune adulte, il arriva à la ville de Melo, en Uruguay, où il travailla comme commercial, épousa Valentina Morales, cultiva les terres de sa famille par alliance et fut le jardinier de la ville pendant longtemps. Devenu père, il disparut pour former une autre famille. Vieil homme, il mourut dans la misère à Montevideo. Cet émigrant originaire de Villanova légua à la bande orientale une jeune fille singulière, Juanita Fernández Morales, plus connue sous le nom de Juana de Ibarburu, ou Juana d'América, dont la délicate voix lyrique fut immortalisée dans le domaine de la poésie universelle. Et maintenant, en arrivant au coin de la rue, prenons à gauche et empruntons le bord de cette route sans oublier notre Juana, car même si elle n'est jamais venue ni à Lorenza ni en Galice, elle n'a jamais oublié le lien qui l'unit à ce terroir. Dans une lettre qu'elle m'a envoyée, elle dit « Comme l'Uruguay, la Galice est ma patrie. Béni soit Dieu et mon Père qui m'ont fait si riche. »
Supera para mí cualquier sueño y acercamiento al alma de esa hermosa tierra que quiero desde que empecé a sentir palpitar mis sentimientos, tan niña que me recuerdo sentada sobre las rodillas de mi padre cuando él recitaba enfáticamente ante mi silencio estático y deslumbrado los poemas de Rosalía de Castro.
En 1963, la collectivité décide de donner à la bibliothèque publique de Villanova le nom de la poétesse. Et même si elle n'a jamais pu venir, elle envoya un message enregistré de remerciement.
Mi amigo el joven Enrique Washington Álvarez lleva mi saludo a los amigos que en Galicia, respondiendo a la generosa iniciativa de don Dionisio Gamayo Fierros, catedrático de letras en la Universidad de Oviedo, para que mi sencillo nombre americano estuviese en el frente de una biblioteca en Villanueva Lorenzana, pueblo de mi padre don Vicente Fernández.
Son souvenir et sa gratitude n'en sont pas restés là. Elle envoya également un poème écrit pour l'occasion, intitulé
« Morriña ». Rosas blancas de la mar que está besando a Galicia y un viento músico que anda por sus valles y sus rías. No sé qué siempre de niebla, no sé qué de sedas ricas, algo que un poco lastima y algo que siempre acaricia. La sueño con dobles sueños de ausente novia y de hija. Si algún día a ti llegara, quiero sentirme, Galicia, recibida por tus gaitas en un crepúsculo lila de violetas y de malvas, de jacintos y luisinas. Tengo tu aire en el pecho como una dicha vecina.
L'écho de la voix de Juana nous accompagne jusqu'à la travesía de Mariña, celle-là même que nous avons traversée au départ. Maintenant, nous allons emprunter ce premier passage piéton qui est en face. Et nous traverserons également le passage qui se trouve un peu plus loin. Ainsi, nous serons bien situés pour nous rendre à notre destination suivante, le pont de pierre. Traversons avec précaution. Ce pont a toujours été le symbole de Villanova. Et ce n'est pas sans raison. C'est ici que les premiers habitants se sont installés, venus sûrement d'un castro fortifié situé dans la butte non loin du pont et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de castro. Traversons à présent le deuxième passage piéton. Nous arriverons à l'angle de ce carrefour à côté de plaques signalétiques. Quelques mètres plus loin, nous verrons un autre passage piéton qui traverse la route vers la droite. Nous devons la traverser et suivre encore la ruelle qui descend au fond. Impossible de se perdre, car au bout, on aperçoit le pont. Eh bien, on y va. On traverse le passage, encore une fois, en faisant très attention. La construction du premier pont date de l'époque tardo-romaine et tous ceux provenant de la côte, de l'intérieur ou même des Asturies l'empruntaient. Et maintenant, attention! Ce n'est pas la peine de s'arrêter, mais dans la petite pente descendante qui nous conduira à la rivière, nous pourrons voir à notre droite, au ras du sol, une pierre avec une inscription qui dit 1842. Bien, c'est la fontaine Saint-Miguel. Avec la fontaine à deux becs de l'Alameda et la fontaine de Gracia, elles forment le trio de fontaines importantes de Villanova. Une fois arrivés au pont, nous allons nous arrêter au milieu. À gauche, là-haut, on peut voir derrière les hangars Hermida, le quartier de Castro dont je vous ai parlé. Et de l'autre côté de la rivière qui se nomme Batán, on peut imaginer les premières maisons qui ont fait naître le premier hameau. Les environs du pont sont l'un des quartiers de Villanova qui ont beaucoup changé. Malgré tout, je me souviens encore d'un moulin qu'il y avait là et également du potager qui longeait la rivière.
La horta de Marica de Morán.
Le potager de Marica de Morán. Quelle belle pomme! Quelle prune! Quelle pêche!
A ver, c'est un refrain. Je ne sais pas.
Je ne sais pas si aller jusqu'à la boulangerie de Freire, voir s'il y a dans son bon lit. Et sinon, peut-être qu'il y a un autobus à l'arrêt et on me laissera monter. Un jour, je vais en prendre un qui aille, au moins jusqu'à Vilapol.
La demeure de la famille Freire, pionnière dans l'exploitation de transport automobile de voyageurs, se trouvait dans l'une des maisons que vous voyez en face, de l'autre côté de la rivière. Ce chemin conduit au village de Vilapol, qui ne serait autre que la destination utopique d'un enfant si ce n'était parce qu'il y a eu là-bas une école de celle que l'on appelait de Ferrado, qui a été immortalisée par Julia Minguillón dans un célèbre tableau, peintre de Lugo demeurant à cet endroit. Mais maintenant, nous rebroussons chemin afin de revenir au carrefour où se trouvent les panneaux signalétiques de la route que nous avons empruntée. Julia Minguillón était la fille de l'apothicaire Don Federico et elle passa son enfance à Villanova. Des années après, elle alla à Madrid avec une bourse d'études de la députation de Lugo, puis se forme à l'école des Beaux-Arts de San Fernando. On raconte qu'à l'automne 1940, au cours d'une promenade qui la conduit à Vilapol après avoir emprunté ce pont, elle découvrit cette scène scolaire qui la frappa tant et si bien qu'elle décida de commencer le tableau au sein de l'école elle-même en utilisant comme modèle les petites filles et petits garçons qui y étaient élèves. En contrepartie, elle leur donna des biscuits. Elle acheva le tableau l'année suivante dans son atelier. Il obtint la médaille de l'Exposition nationale des Beaux-Arts. C'est la première et la dernière fois que ce prix a été décerné à une femme. À présent, selon mes calculs, nous devrions être sur le point d'arriver à nouveau au carrefour d'où nous sommes partis avant. Nous traversons le passage piéton, puis prenons à droite et tournons à l'angle pour emprunter la rue à notre droite. C'est ici qui commence la rue Abelino Montero Villegas. Nous verrons un azulejo, carreau de faïence, incrusté dans le mur en parpaing. Il nous indique que par ici passe aussi le chemin de Saint-Jacques. Arrêtons-nous un instant avant de plonger pleinement dans cette rue. Elle trouve son origine dans la voie qui partait du pont vers le sud, en longeant les propriétés du monastère. Elle devint chemin royal puis tronçon de la route nationale de Villalba-Oviedo ou à Coruña-San-Sébastien. Ici est né Villanova et le commerce fleurissait ici. Mais il est l'heure de reprendre la route. Nous allons justement parcourir la case de bout en bout. La première chose qui s'offre à notre vue, à gauche, est une grande demeure agrémentée d'un petit jardin devant, appelé Casa de Don Ángel, l'Américain, un émigrant qui fit fortune à Cuba. Toute la circulation routière de Villanova empruntait cette rue, et le va-et-vient incessant des véhicules était une partie importante de la vie du village. À cette époque, les autocars étaient lourds, chaotés. Tous les jours, à la même heure, les habitants attendaient les véhicules qui transportaient des voyageurs, mais aussi les sacs de courrier. Et ils passaient par cette rue, inévitablement étroite, parce qu'elle ne pouvait pas être élargie. Je me souviens encore très bien de l'apparition de la première voiture à moteur à Villanova.
Maman, une voiture est arrivée, une voiture française. C'est une Dion Bouton à ce qu'il paraît. Il s'est arrêté devant la maison d'amis.
Les Dion Bouton étaient carrossés à Viveiro. Plus tard, ce fut plus habituel de voir circuler des voitures dans la case. Moi, je les attendais là et j'essayais d'en deviner la marque.
Une Citroën. Tu as vu? J'ai trouvé. Elles sont belles, les Citroën. Il y en a une autre qui arrive. C'est bon. Elle va longtemps. Ça doit être un Fiat. Il n'avance pas. Oui, c'en est une. Je suis sûre que si je me mettais à courir, je la dépasserais.
Souvent, sur mon chemin, je m'arrêtais pour parler à mes voisins.
Salut, Angel. Tu es toujours facture?
Angel était aussi le tailleur et répartissait son temps entre un métier et l'autre. Je papotais également avec Abilio, le cellier.
Arsène, et la ville que tu m'as promis? Je veux une grande, hein? Une des camions.
Arsenio était mécanicien et il avait un garage dans la rue. Lorsqu'il changeait un roulement, il gardait toujours une des billes d'acier pour me la donner. Maintenant, cherchons du regard vers la droite un édifice moderne à 3 étages, avec un petit balcon au milieu de chaque étage. Vous l'avez trouvé? Eh bien, arrêtons-nous devant lui un instant. Il semblerait que dans le terrain occupé par cet édifice se trouvait la maison où Luis Trigochao, alias Hogar de Ríos, et sa compagne Antonia Díaz Pérez furent assassinés. La maison d'origine n'existe plus, mais elle était si grande qu'elle avait même des écuries à l'arrière. Elle donnait sur un ruisseau qui est maintenant une rue. Qui était Hogar de Ríos, vous demanderez-vous? Un guerrillero antifranquiste très populaire dans le village et dans toute la Marina. Au déclenchement de la guerre, en 1936, il prit le maquis et vécut ainsi 12 ans, jusqu'au 25 juin 1948, jour où il fut abattu à cet endroit. Il faut dire qu'il ne s'est jamais beaucoup caché. Il n'avait pas peur d'être dénoncé. En effet, s'il a été à même de passer 12 ans dans le maquis, c'est grâce au soutien des voisins qui lui ont ouvert les portes de leur foyer pour l'y cacher. Il aimait beaucoup aller de fête en fête, et cette dernière nuit fatidique, il revenait justement d'un bal populaire. Continuons à marcher.
Quelle belle fête à Aube, hein? Bon, j'aurais bien dansé un peu plus, pas toi?
T'aimes danser, hein? Tu veux danser ici, sans musique ni rien?
La musique, je m'en charge. Viens, dansons. Pa,
pa, tiens-toi tranquille. Pa, pa, chut parara. Qu'est-ce que tu fais? Toi, fou, parara. On va t'entendre.
Allons, danse avec moi.
Tiens-toi tranquille, Luis. Attends.
Qu'est-ce qu'il y a?
Tu trouves pas ça bizarre?
Quoi?
Y'a aucune lumière.
Une coupure de courant, c'est pas la première fois.
Une coupure? Ça n'a pas de sens. On est en été, y'en a pas de pluie, pas de vent, pas de coups de tonnerre.
Pas besoin de raison pour couper l'électricité.
Je sais pas, Luis. Ça me dit rien qui vaille.
Et qu'est-ce que tu veux? On va pas partir maintenant.
Non, pas partir. Mais on devrait peut-être rentrer à la maison par la porte arrière.
D'accord. Si ça te rassure, on va par derrière.
Attends. Tu sens pas une odeur bizarre?
Allons, calme-toi.
Attends la guardia civile.
Luis.
Partons.
Luis.
Vas-y, vas-y. Vite, vite.
Luis.
Bordel, tu vas voir ce que tu vas voir.
Alto el fuego. Alto. Volado. Para. Para. Volado.
Eh bien, nous allons atteindre la place et il faut nous arrêter. Si l'on continue tout droit, on sort du village par l'ancien chemin de Saint-Jacques. Et si l'on emprunte la rue à droite, appelée Obispo Bizarruel, on arrive à la chapelle de Gracia. Elle vaut vraiment le détour. Je vous recommande chaudement de la visiter, mais pas maintenant, car notre promenade s'achève là, où nous sommes, place Linares Rivas. C'est dans cette place que je suis né. Et si vous le permettez, j'aimerais finir la visite au pas de la porte de ma maison natale. Nous allons avancer comme si on revenait au monastère. Si vous regardez les maisons à gauche de la place, à la fin des arcades, vous pourrez apercevoir un bâtiment avec une plaque entre les deux derniers balcons du premier étage. Cette plaque remémore modestement ma naissance à cet endroit. Nous faisons une halte et après l'avoir examinée, ce qui ne nous prendra pas beaucoup de temps, on y tournera le dos. Parce que je veux que vous contempliez ce que je voyais par la fenêtre. Car ce que l'on voit aujourd'hui, même si avec un autre visage, n'est pas très éloigné de la vue que j'avais lorsque j'étais enfant.
Vou me asomar ao balcón a ver o que passa fora.
E bom, il n'y a plus personne dans les maisons d'en face. On se lève tôt chez Don Maximino. Fais voir s'il y a quelqu'un dans la maison d'à côté. Voilà, Don Jesús. Toujours assis. Il semble toujours tellement triste. Mais il ne tombe pas. Là, au-dessous de la pharmacie, parce que dans la pharmacie, c'est comme avec Don Jesús. Toujours pareil. Et sur les bancs, qui est à l'extérieur, il y a toujours les mêmes gens assis. L'apothicaire, Don Federico, le médecin, Don Paco Ron et papa. Et les conversations vont bon train. Ils parlent.
L'atmosphère du village nous a façonnés d'une certaine façon. Il me semblait curieux d'observer l'identification de l'esprit du village avec ses habitants. J'avais presque l'impression qu'ils étaient comme les pierres de l'église, des maisons. Le village prenait vie par lui-même, était comme un autre vivant. Pour ainsi dire, c'était comme un être ancien qui dormait dans la vallée entourée de bois, comme un chien au soleil. J'entendais les cloches et c'était comme si la lumière et les heures s'y arrêtaient. Une voix mise sonnait en moi. Dis avec moi, Lorenza, et tu verras comme quelque chose de rose et blanc se berce sur la terre verte.
Les personnages de cet audioguide ont été interprétés par ordre d'intervention par Martin Castro, Olivier Cano, Álvaro Trillo, Manuel Cortés et Chris Iglesias. L'édition et post-production du son étaient à la charge de Jacobe Martinez Antelo et la documentation et le script sont signés chez Sujron et Manuel Cortés. Cette œuvre n'aurait pas pu voir le jour sans la participation de Manuel Román et le soutien de Rocío López, Manuel Arango et María José López.